Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très importante et pas très facile série. La rédemption, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Nous arrivons à l'étude numéro 8 et c'est la troisième partie, donc onzièmement, je remarquerai encore, est-il dit, que Dieu maintient admirablement le royaume visible de son peuple dans la ligne des ancêtres légaux de Jésus-Christ aussi longtemps qu'ils sont restés un peuple indépendant. Cela a eu lieu sans aucune interruption digne de remarque. À la vérité, le royaume de toutes les tribus d'Israël ne fut pas maintenu dans cette ligne, mais le pouvoir de cette portion qui conserva le vrai culte de Dieu, qui fut son peuple visible, se maintient toujours dans la famille de David, et cela aussi longtemps qu'il y a eu un roi indépendant en Israël. Ainsi s'accomplit la promesse qui a été faite à David. Le pouvoir fut maintenu, non seulement dans sa famille, mais également dans cette branche dont Christ devait descendre. De sorte que les ancêtres légaux de Jésus-Christ furent toujours sur le trône, excepté Jéhoacha, qui régna 3 mois, et Sédécias, comme on le voit dans la généalogie de Jésus-Christ conservée par saint Matthieu. Jésus-Christ descendait légalement des rois des Juifs, mais non naturellement. Il descendait légalement et naturellement de David. Il descendait naturellement de Nathan, fils de David, car Marie, sa mère, était de la postérité de David par Nathan, comme on peut le voir par la généalogie de saint Luc. Mais Joseph, le père supposé et légitime de Jésus-Christ, descendait naturellement de Salomon et de ses successeurs, comme cela est rapporté dans la généalogie de saint Matthieu. Bien que Jésus-Christ ne fût pas le fils de Joseph par la voie naturelle, d'après la loi et la constitution des Juifs, il n'était pas moins son héritier, parce qu'il était le fils légitime de la femme légitime de Joseph, conçu alors qu'elle était légalement sa femme. Il est vrai que le Saint-Esprit lui suscita une semence. Et d'après la loi de Moïse, une personne pouvait être le fils légitime et héritier d'une autre, sans être son fils par la voie naturelle. Car quelquefois, un homme suscitait la lignée à son frère. Un frère, dans certains cas, avait donc à édifier la maison de son frère. Ainsi, le Saint-Esprit édifia celle de Joseph. Tout ça paraît un peu compliqué, mais si vous réécoutez soigneusement le CD, vous comprendrez de mieux en mieux. Joseph étant dans la ligne directe des rois de Juda, hors de la maison de David, se trouvait être, sous ce rapport, l'héritier légitime de la couronne de David, et Jésus, qui était légalement son fils aîné, était son héritier. Ainsi Jésus-Christ, d'après la loi, était l'héritier légitime de la couronne de David, et c'est pourquoi il est dit être assis sur le trône de David, son père. La couronne du peuple de Dieu, donc, fut maintenue d'une manière admirable dans la ligne des ancêtres légitimes de Christ. Quand David fut vieux et hors d'état d'administrer plus longtemps les affaires du royaume, Adonija, un de ses fils, prétendit se faire roi et sembla atteindre son but. Tout eut l'air de bien tourner au début, en sa faveur, pendant un court laps de temps, et il se crut très fort. Mais Adonija n'était pas l'ancêtre de Joseph. Il n'était pas le père légitime de Jésus-Christ, ou si on voit comme la providence peut intervenir admirablement, quelle révolution étrange et subite. Le royaume et la gloire d'Adonija, on peut dire, s'évanouir à peine établi. Ainsi Salomon, ancêtre légal de Christ, a pu être établi sur le trône. Et après sa mort de Salomon, Jéroboam conspira contre la famille de David, et Roboam se conduisit de telle façon que ce fut un miracle que tout Israël ne fut pas conduit à l'abandonner comme ont fait les 10 tribus pour établir Jéroboam à sa place. Cependant, bien qu'il fût un homme méchant et qu'il méritait d'être privé de la couronne, comme il était l'ancêtre légal de Jésus-Christ, Dieu avait maintenu en sa possession le royaume des 2 tribus dans laquelle le vrai ou la vraie religion a pu se conserver. Et quoique son fils Abija fut un autre méchant prince, Dieu a maintenu la couronne dans sa famille et il l'a donnée à Asa, son fils. Dans la suite, plusieurs des rois de Juda ont été très impies, méchants, et ont provoqué Dieu. Par exemple, nous avons Joram, Achatsia, Achas, Manassé et Amon. Néanmoins, Dieu ne laissa point sortir la couronne de leur famille, mais il la donna à leur fils parce qu'ils étaient les ancêtres de Christ. Dieu agit donc ainsi, malgré leur grande méchanceté, parce qu'il se souvient, nous est-il dit, de l'alliance qu'il avait faite avec David. Il est dit, en parlant de la méchanceté de Abija, mais pour l'amour de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna une lampe dans Jérusalem, lui suscitant son fils après lui et protégeant ainsi Jérusalem. 1 Roi, chapitre 15, verset 4. Et en parlant de la grande méchanceté de Joram, il dit « Toutefois, l'Éternel ne voulut point détruire la maison de David à cause de l'alliance qu'il avait traité avec David, et selon ce qu'il avait dit, qu'il lui donnerait une lampe à lui et à ses fils à toujours. » 2 Chroniques, chapitre 21, notez le verset 7. La couronne des 10 tribus passait ainsi continuellement d'une famille à une autre. Jéroboam fut donc le premier qui l'a pris mais elle ne passa que à son fils Nadab, ensuite Bahaza, qui était d'une autre famille, s'en empara, et elle ne resta dans sa postérité qu'une seule génération après sa mort. Alors Zimri, qui était son serviteur et qui n'appartenait pas à sa postérité, s'en empara. Omri, qui était encore d'une autre famille, la lui enleva. La couronne fut donc transmise successivement à trois membres de sa famille, après quoi Jéhu, qui appartenait à une autre, s'en saisit. La couronne ne passa pas à sa postérité, car Menahem, qui était d'une autre famille, l'a pris, mais elle ne resta dans sa famille qu'une seule génération. Alors Pekra, qui était encore d'une autre famille, s'en saisit, après quoi Hosei, qui était encore d'une autre, il l'a pris à son tour. Telle était donc la grande différence entre la couronne d'Israël et celle de Juda, car celle-ci resta toujours dans la même famille et à fort peu d'exceptions près, dans la ligne directe, celle-là passa continuellement d'une famille dans une autre. Ce n'est pas que les rois de Juda, du moins plusieurs d'entre eux, ont été beaucoup meilleurs que les rois d'Israël, mais la bénédiction de Dieu reposait sur eux. Ils étaient les ancêtres de Christ qui avait droit de s'asseoir sur le trône d'Israël. Mais il n'en était pas de même des rois d'Israël. Et c'est pourquoi la providence divine, à travers tous les changements qui s'accomplirent dans plusieurs générations pendant un si long espace de temps, a eu soin de maintenir la couronne de Juda dans la ligne directe, accomplissant ainsi l'alliance éternelle faite avec David. Les bénédictions de cette alliance étaient certaines, mais dans l'autre cas, il n'y avait pas d'alliance semblable, ou si la providence n'intervint, elle n'est pas intervenue de la même manière. Et ici, nous ne devons pas oublier de dire qu'il y a eu une fois une conspiration formidable des rois de Syrie et d'Israël du temps de ce méchant roi de Juda qui était à chasse dans le but de le renverser, lui et sa famille, du trône de Juda et de mettre ainsi un homme d'une autre famille à sa place, le fils de Tabéal. Montons en Judée et la révélation est établie pour roi. Il est dit, dans Ésaïe chapitre 7, verset 6, il est dit: montons en Judée et la réveillons et établissons pour roi le fils de Tabéal au milieu d'elle. Ésaïe chapitre 7, on a dit, verset 6. Et il était très vraisemblable qu'ils allaient accomplir leur dessein, d'autant plus que le peuple était découragé et abandonna la cause. Du reste, il est dit que le cœur d'Achas et le cœur de son peuple furent ébranlés, comme les arbres de la forêt sont ébranlés par le vent. Et à cette occasion-là, Dieu a envoyé le prophète Ésaïe pour encourager le peuple et lui a déclaré que la chose n'aurait pas lieu. Et comme l'affaire paraissait désespérée à Achas et au peuple, Dieu chargea le prophète de leur montrer par un signe que le Christ naîtrait, qu'il allait naître de la postérité d'Achas. Il est dit dans Ésaïe chapitre 7 verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et elle appellera son nom Emmanuel. » On a dit Ésaïe chapitre 7 verset 14. C'était donc là un signe excellent et une grande confirmation de la vérité de la promesse que Dieu a faite par le moyen d'Ésaïe, c'est-à-dire savoir que les rois d'Israël et de Syrie ne réussiraient jamais dans leur projet de déposséder la famille d'Achas du trône de Juda pour mettre à sa place le fils de Tabéal, car Christ, l'Emmanuel, devait être de leur famille. Deuxièmement, la construction du temple fut le grand type de trois choses. Savoir de Christ, particulièrement quant à la nature humaine, de l'Église et des cieux. Le tabernacle semblait représenter plutôt l'Église dans sa condition changeante et incertaine dans ce monde. Mais cet édifice, beau, magnifique et riche, le temple qui remplaça le tabernacle, semble surtout représenter l'Église dans son état glorifié dans les cieux. Ce temple fut donc construit d'après les directions et les plans montrés par le Saint-Esprit à David dans l'ère d'Ornan, le Chébusien, sur la montagne de Morija, 2 Chroniques chapitre 3 verset 1. La même du reste, la même montagne sur laquelle notre ami Abraham a offert son fils Isaac en sacrifice, car il est dit que cela a eu lieu dans le pays de Morija, Genèse chapitre 22 verset 2, et elle était appelée la montagne de l'Éternel comme celle du temple, et Abraham appela le nom de ce lieu-là, Dieu y pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, en la montagne de l'Éternel, il y sera pourvu. Genèse chapitre 22, verset 14. Ce fut dans cette maison que le Christ habita jusqu'à ce qu'il est venu pour se revêtir de la nature humaine. On voit que son corps était l'antitype de ce temple, parce qu'il dit, détruisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. Notez Saint Jean chapitre 2, versets 19 et 20. Ceci en parlant évidemment du temple de son propre corps. Ce fut là toujours la maison de Dieu, le lieu de culte pour l'Église jusqu'à la venue de Christ, la place que Dieu avait choisie pour offrir tous les sacrifices jusqu'à ce que le grand sacrifice fût offert. Ce fut donc dans ce temple que le Seigneur, l'ange de l'Alliance, fit son entrée, et ce fut là que souvent il proclama ses doctrines célestes et accomplit des miracles. Ce fut également là que son Église fut assemblée par l'effusion du Saint-Esprit après son ascension. Et ils étaient toujours dans le temple, nous est-il dit, louons et bénissons Dieu. Saint Luc chapitre 24, verset 53. Et il est dit au sujet des multitudes qui ont été convertis. Oui, ils ont été convertis par l'effusion du Saint-Esprit, et cela le jour de la Pentecôte. Tous les jours, ils persévéraient tous d'un seul accord dans le temple. Actes chapitre 2, verset 46. Et l'histoire sacrée, en parlant des apôtres, nous dit, et ils ne cessaient tous les jours d'enseigner et d'annoncer Jésus-Christ dans le temple et de maison en maison. Donc, pas seulement dans la synagogue, mais aussi ils allaient de maison en maison, selon Actes chapitre 5, verset 42. Ce fut donc de là que la voix de l'Évangile a pu se faire entendre et que l'Église s'est répandue dans tout le monde. Huitièmement, il est digne de remarquer que sous le règne de Salomon, après que le temple a été terminé, l'Église juive est parvenue à son plus haut degré de gloire extérieure. L'Église juive, pour ce qui est de ses ordonnances et de ses constitutions, est comparée à la lune. Il est dit dans Apocalypse chapitre, je crois, 12, verset 1, vérifiez, Apocalypse 12, verset 1, il est dit que « Et un grand signe apparut au ciel, savoir une femme qui était revêtue du soleil sous les pieds de laquelle était la lune, et sur sa tête était une couronne de 12 étoiles. » Apocalypse chapitre 12, verset 1. Cette église pouvait être comparée à la lune à plusieurs autres égards, en particulier en ceci qu'elle crut et diminua comme elle. Depuis sa formation, quand Dieu a fait alliance avec Abraham, qui lui fut l'époque à laquelle cette lune avait commencé à paraître, elle avait toujours augmenté en gloire. Et le moment où le temple fut terminé et sa dédicace a été faite et à peu près également éloignée de la vocation d'Abraham et de la venue de Christ, eh bien la lune est alors dans son plein. Et à partir de ce temps-là, on peut dire que la gloire de l'Église juive a commencé à diminuer graduellement jusqu'à la venue de Christ, comme nous aurons l'occasion de le montrer plus en détail. L'Église d'Israël était donc alors au plus haut point de sa gloire extérieure. Israël s'était dans ce temps-là considérablement multiplié, de sorte qu'il semblait être devenu comme le sable de la mer, selon 1 Roi chapitre 4, verset 20. À cette époque-là, le royaume d'Israël était, on peut dire, fermement établi dans la famille où il devait se trouver, c'est-à-dire dans celle de laquelle Jésus-Christ devait naître. Dieu avait fait choix de la ville dans laquelle il entendait établir son nom, il avait mis le peuple complètement en possession de la terre promise. Il la possédait alors, toute entière, en repos et en paix, et ses limites étaient le fleuve d'Égypte et d'Euphrate. Tous les peuples qui avaient été précédemment leurs ennemis se sont soumis tranquillement à eux et aucun ne songeait à se révolter. Le culte juif était donc complètement arrêté dans ses cérémonies au lieu d'un tabernacle portatif. Ils avaient un magnifique temple. On peut dire le plus magnifique, le plus beau et le plus riche édifice qu'il y ait jamais eu, soit avant ou soit après. Le peuple jouissait alors de la paix et de l'abondance. Chacun était sous sa vigne et sous son figuier, nous est-il dit dans 1 Roi, chapitre 4, verset 20. Ils étaient donc dans la plus grande prospérité terrestre possible, et l'argent était aussi commun que les pierres. Le pays abondait en or, en pierres précieuses et en beaucoup d'autres choses que les vaisseaux de Salomon portaient, d'Ophir et d'autres parties du monde. Ils avaient pour régner sur eux un roi qui était le plus sage de tous les hommes et probablement le plus grand prince qui ait jamais existé, Salomon. Leur renommée, du reste, s'est répandue par tout le monde, de sorte que plusieurs sont venus des extrémités de la terre pour voir leur gloire et pour voir leur bonheur. C'est ainsi que, en terminant notre étude aujourd'hui, que Dieu s'est plu à donner dans le règne d'un des ancêtres du Messie une image remarquable du règne glorieux de Jésus-Christ. David, comme homme de guerre, qui avait versé beaucoup de sang, et dont la vie fut pleine d'agitation et de lutte, fut évidemment un représentant plus fidèle de Christ dans son humiliation, alors qu'il était en conflit avec tous ses ennemis. Mais Salomon, qui était un homme de paix, représente surtout Christ glorifié, Christ triomphant, et régnant dans son royaume de paix. La position heureuse et glorieuse de l'Église juive à cette époque préfigurait d'une manière remarquable deux choses. Primo, un état de gloire pour l'Église sur la terre dans les derniers âges du monde, ces jours de paix dans lesquels une nation ne tirera plus l'épée contre une autre nation et n'apprendra plus à faire la guerre. Secondo, le futur état glorifié de l'Église dans les cieux. La Canaan terrestre ne fut donc jamais un type plus éclatant de la Canaan céleste que lorsque le peuple beaucoup plus heureux, a pu en jouir comme d'un pays où découle, où coule, on peut dire, le lait et le miel. Chers amis, avant de terminer par la prière, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose pour votre propre enseignement et aussi pour votre encouragement. Un grand amour est sûr de lui. Il sait que la présence de l'être aimé suffit à surmonter n'importe quelle difficulté, oui, n'importe quelle épreuve et n'importe quel échec. C'est merveilleux ce que il est dit dans les Saintes Écritures. Écoutez encore ce que le Seigneur me donne pour vous. Il n'y a pas de limite à ce que vous pourrez faire. Tâchez simplement de vous en convaincre. Ne renoncez jamais à aucune tâche et n'en rejetez jamais la pensée parce qu'elle vous paraît dépasser vos forces. N'y renoncez que si le Seigneur vous montre très clairement qu'elle n'est pas dans ses intentions à votre égard. Et c'est là de sa part, un ordre. Pensez à la chétive personnage qui sort d'un sol durci par l'hiver. Il n'est même pas certain qu'après s'être frayé un chemin à travers la neige, elle soit accueillie par le soleil et par une température printanière. N'est-ce pas là entreprendre plus qu'il n'est possible de réaliser? Mais l'appel de la vie est là. Elle est là qui oblige à aller de l'avant et le miracle a lieu. Il en va ainsi du royaume de Dieu. Vous apportez vos requêtes comme le Seigneur vous y a invité. Bientôt, vous en verrez le résultat. On ne saurait persévérer dans cette voie, en effet, sans qu'il en résulte quelque chose au niveau de ce qui est matériel et visible. Il s'agit là d'une loi immuable. Pour le moment, vous en êtes encore au stade de l'enfant qui applique les données d'une leçon qu'il vient d'apprendre. Alors persévérez, oui, persévérez inlassablement, et cela deviendra de plus en plus facile. Vous enviez peut-être ceux qui déjà sont à l'aise dans une vie qui manifeste la puissance de Jésus, mais vous oubliez la discipline à laquelle ils ont dû s'astreindre. Pour que cette puissance puisse être donnée, en effet, il faut que ses disciples se plient à une discipline spirituelle. Elle fait partie de leur formation progressive. Vous avez le sentiment d'être parvenu déjà à un stade qui écarte pour vous la possibilité d'un échec final. C'est vrai, mais les autres n'en prennent conscience que à partir du moment où cela se voit au fruit que porte votre vie. Chers amis, maintenant, prions ensemble et j'essayerai de mettre un ou deux chants ensuite d'un très très lointain passé. En ce temps-là, il n'y avait évidemment pas de CD. Prions. Seigneur Dieu fort, qui a créé les cieux et les a étendus, qui a aplani la terre avec ce qu'elle produit, toi qui nous appelles, qui nous prends par la main, qui nous gardes, tu es l'Éternel, c'est là ton saint nom. Que ta louange soit entendue au bout de la terre, que le désert élève la voix, qu'il donne gloire à l'Éternel. Il n'y a point eu de Dieu fort avant toi qui ait rien formé, et il n'y en aura point après toi. Il n'y a point d'autre sauveur que toi. C'est toi qui as annoncé les choses à venir. Tu étais avant que le jour fût. Il n'y a personne qui puisse te livrer de ta main. C'est toi seul qui es notre saint, qui es notre créateur d'Israël, qui es notre roi. C'est toi seul qui efface nos iniquités. C'est toi seul qui a promis que lorsque nous passerons par les eaux, tu seras avec nous, que lorsque nous passerons les fleuves, ils ne nous noieront pas, quand nous marcherons dans le feu, nous ne serons plus brûlés, et la flamme ne nous embrasera point, car tu es notre Dieu et notre Sauveur. Tu as aussi promis de répandre des eaux sur celui qui est altéré, et des rivières sur la terre sèche. Toi qui es le premier et le dernier, tu nous dis de n'être point effrayés ni troublés, car tu nous as donné ton élu, tu as mis ton esprit sur lui, il ne brisera pas le roseau froissé, et il n'éteindra pas le luminon qui fume encore, il jugera dans la vérité. Ô cieux, réjouissez-vous avec un chant de triomphe, l'Éternel qui a fait toutes choses, il renverse les sages, et il fait que leur science devient une folie. Ô Israël, dit le Seigneur, ne m'oublie pas. Inclinons-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, et rendons à l'Éternel la gloire qui lui est due à son saint nom. Amen. Et maintenant, je vais essayer, comme j'ai dit, si ça fonctionne, de vous mettre quelque chose d'un très lointain passé.
Holy Ghost. want you to guide me on my way.
Yeah. thank the Lord in this old simple word. Trying to be a comfort as I go, crying for help from last temptation sore. Where could I go but to the Lord? The lonely one, you know we shall get along of one accord. But when my soul please measure from above, where could I go but to the Lord? Where could I go? Where could I go? Seeking a refuge for my weeping soul, needing a friend. For my weeping soul, needing a friend to help me in the end, where could I go but to the Lord? Roll, Jordan, roll, roll, Jordan, roll. I want to go to heaven when I die to hear Jordan roll. Roll, Jordan, roll, roll, Jordan, roll. I want to go to heaven when I die to hear Jordan roll.
Oh, brothers, what have been there?
Yes, my Lord.
Sitting the king down
to hear Jordan roll, roll, Jordan roll,
yeah,
roll, Jordan roll. I want to go to heaven when I die to hear Jordan roll.
Oh, sisters, what have been there?
Yes, my Lord.
Sitting the king down
to hear Jordan roll, roll, Jordan roll,
yeah,
roll, Jordan roll. I want to go to heaven when I die to hear Jordan roll.
Oh, helters, what have been there?
Yes, my Lord.
Sitting the king down
to hear Jordan roll, roll, Jordan roll,
yeah,
roll, Jordan roll. I want to go to heaven when I die to hear Jordan roll, roll, Jordan roll,
yeah,
roll, Jordan roll. I want to go to heaven when I die to hear Jordan roll, roll, Jordan roll, roll, Jordan, roll. I want to go to heaven when I die to hear Jordan roll.
Oh, it is so high,
so high you can get up.
It's so
wide, so wide you can get wide.
It's so low,
so low you can get down.
You might as well
come in at the door.
The gate is high,
so high you can get up.
The gate is wide,
so wide you can get wide.
It's so low. Lord.
So Lord, you can't let us.
You might as well
come in at the door.
Well, I went down in the valley. You knew I did, but it was there. My soul could have in the body. You know the sweet of the world of day to get his heart.
So high, you can't get through.
It's so wild.
So high, you can't get right.
It's so low.
So low, you can't get down.
You might as well
come in at the door.
Your love has been to heaven, but I've been told the three of world. You know to get up close, to get his heart. It's so wild, it's so low. You might as well to get his heart. It's so wild, it's so low.
Bones, 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 walking every night, bones, bones,
you hear the word of God.
Ezekiel's soul. the great big wheeler down in Rome. He set your soul a wheeler rolling way in the middle of the air.
Well, God told Ezekiel to prophesy. He tried to do it, and that's no lie. God sent the wind from the west and the east. Spirit shook him from his head to his feet.
He cried, all bones are walking.
With God Almighty, the whole bones are talking.
Bones, 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 walking in the bones, bones.
We are the whole of God.
Sit your soul and wheel a rolling. The great big wheel and turning low. Sit your soul and wheel a rolling. We're in the middle of the air.
Well, old Ezekiel tried his best to do the thing the Lord had told him to.
He did his best, that's all he can.
After all, Zeke was a natural man.
Zeke has sold a wheel of rolling, the great big wheel and turning low. Zeke has sold a wheel of rolling, way in the middle of the air. Zeke has sold a wheel of rolling, the great big wheel and turning low. Zeke has sold a wheel of rolling, way.
Well, did no Pharaoh get lost?
Get lost,
get lost,
get lost,
get lost,
get lost.
Well, did no Pharaoh get lost?
Lost,
lost in the Red Sea. Well, did no Pharaoh get lost?
Get lost,
get lost,
get lost,
get lost,
get lost.
Well, did no Pharaoh get lost?
Lost
in the Red Sea.
Well, God spoke to Moses as the man
that crossed the Red Sea.
Said Moses, go down to Egypt land.
Cross the Red Sea.
Just take the rod tight in thy hand.
Cross the Red Sea.
Then preach to Pharaoh what I command.
Cross the Red Sea.
Well, then no.
Get lost,
get lost,
get lost,
get lost,
get lost.
Well,
then no Pharaoh get lost, lost,
lost
in the Red Sea.
Well, then no Pharaoh
get lost,
get lost,
get lost,
get lost,
get lost,
get lost.
Well, then no Pharaoh get lost,
lost,
lost in the Red Sea.
Well, Moses went down in Egypt land,
cross the Red Sea.
He told old Pharaoh what God had commanded,
cross the Red Sea.
My people has been suffering under his hand.
Cross the Red Sea.
Said release my children out of Pharaoh's hands.
Cross the Red Sea.
Now did no Pharaoh get lost?
Get lost,
get lost,
get lost,
get lost,
get lost.
Well, did no Pharaoh get lost?
Lost, lost in the Red Sea.
Well, did no Pharaoh get lost?
Get lost,
get lost,
get lost,
get lost,
get lost.
Well, did no Pharaoh get lost?
Lost,
lost
in the Red Sea.
He said to the children, this is God's command.
Cross the Red Sea.
Now over in the promised land.
Cross the Red Sea.
While the water was making such a terrible sound.
Cross the Red Sea.
Well, that's when Pharaoh's only get around.
Cross the Red Sea.
Well, then no Pharaoh get lost.
Get lost.
Get lost.
Get lost.
Get lost.
Well, did no Pharaoh get lost,
lost,
lost in the Red Sea?
Well, did no Pharaoh get lost,
get lost,
get lost,
get lost,
get lost,
get lost? Well, did no Pharaoh get lost,
lost?